Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Ingrid Luc-Hegal, Florian Guettet et Stéphane Coréard pour parler ensemble de Nous les Arts, moi, jusqu'au 10 novembre à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain. Le mobilier d'architecte 1960-2020, c'est jusqu'au 30 septembre à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. La peur d'aimer, Orsay, vu par Tracy Emin, c'est jusqu'au 29 septembre au Musée d'Orsay. Il y aura un coup de cœur de Stéphane Coréard pour l'exposition Étienne au carré, jusqu'au 15 décembre à la MABA. Mais nous ouvrons cette émission comme annoncé avec un hommage que nous voulions consacrer à Peter Lindbergh, dont on a appris aujourd'hui la mort à l'âge de 74 ans. Le photographe allemand qui avait étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, qui avait été ensuite embauché par le magazine Stern, où il pouvait croiser à cette époque Helmut Newton ou Guy Bourdin, qui collaboraient de temps à autre. Lindbergh s'est installé à Paris à la fin des années 70, à l'épicentre du monde de la mode, disons-le. Et c'est dans ce monde de la mode qu'il va se démarquer pendant prenant le temps de construire l'image, notamment de la génération dorée des top modèles, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Kate Moss et quelques autres. Mais Kate Moss, concernant cette dernière, il y a une image, peut-être une des plus célèbres du photographe Peter Lindbergh, où Kate Moss rejoue une autre photo célèbre, celle du jeune homme en colère de Paul Strand. Lindbergh, qui n'était pas tendre avec les canons de photos de mode, il prenait régulièrement la parole comme il l'avait fait sur l'antenne de France Culture le 9 octobre 2014. On va entendre ce court extrait où il répondait aux questions de Caroline Brouet dans La Grande Table.
Il ne faut pas voir la mode comme un catalogue en présente de modèles de mode pour être vendu. Ça, évidemment, ça, c'est pas très excitant. Par contre, si on voit la mode comme un phénomène culturel qui évoque les femmes, les gens peuvent s'exprimer tout dans un contexte plus large, je trouve que ça redevient très intéressant, cette mode, non? Je trouve, je dirais, la beauté qui n'a pas une vérité, ça ne peut pas être la beauté. Moi, je trouve que la beauté, c'est d'abord basé sur une vérité, c'est un truth, non? Et je trouve, par exemple, ça discriminer toutes les sortes de retouches. La retouche enlève la vérité des gens, et sans la vérité, il n'y a pas de beauté. Et tous ces masques des femmes aujourd'hui qui vont dans les publicités ou dans les journaux de mode, c'est pour moi, c'est une horreur, et ça n'a rien à voir avec la beauté.
Voilà, quel mérite d'être clair. Un tour de table pour évoquer votre Peter Lindbergh, Ingrid Luc-Hegan.
Peter Lindbergh, c'est vraiment l'invention des années 90, du moins en images, puisqu'il fait le trait d'union entre deux époques. Il commence à travailler comme photographe publicitaire aux côtés de deux plus grands photographes de publicité ou de mode des années 70, qui sont Guy Bourdin et Helmut Newton, qui côtoient au magazine Stern, à l'époque où il était un ancien étudiant en art reconverti dans la photographie de mode. Et donc, en 1988, il shoot cette fameuse série de photographies en noir et blanc. On voit une ribambelle de jeunes femmes qui ne sont pas encore connues sur la plage à Malibu, en chemise blanche. Cette série sera publiée dans le Vogue américain en 1990. Et donc, invente véritablement les années 90, c'est-à-dire les top modèles. Donc, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer ou Kate Moss. Et la top modèle qui est vraiment accessible avec ce naturalisme allemand que lui prenait plutôt du côté expressionniste et plutôt de la peinture, puisqu'il fut également un grand fan de Van Gogh.
Stéphane Coréard.
Oui, effectivement, il y a le lien avec l'art. C'est vrai que Peter Lindbergh, c'est le noir et blanc, l'expressionniste allemand, comme l'a dit Ingrid. C'est aussi, je trouve l'extrait était magnifique de ce qu'il dit de la photo de mode. C'était pas un photographe commercial. En fait, c'est quelqu'un qui photographiait des gens. Effectivement, le noir et blanc, pas de retouches. Il essayait vraiment de, il passait du temps avec ses modèles. Il essayait de rentrer dans une relation d'intimité. Il photographiait pas des vêtements. Il photographiait des femmes libres, comme il le disait. C'est ça qui l'intéressait. Il a toujours été effectivement très proche du monde de l'art. Il est venu en France sur les traces de Van Gogh en Arles. Il habitait d'ailleurs, je crois, une partie de l'année
à Arles. Ouais.
Effectivement à Arles. Et il a exposé très tôt dans les circuits de l'art contemporain. Je crois qu'il a même été exposé par Hans Meyer et Denise René en Allemagne. Et puis ensuite, il a été exposé à Paris, récemment encore chez Gagosian. Il dialoguait avec Giacometti il n'y a encore pas si longtemps. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui avait une grande culture de l'image. Vous avez rappelé ce portrait de Kate Moss. Effectivement, qui était plus qu'un clin d'œil à un géant du passé. Donc, je pense que c'est effectivement peut-être un des derniers grands géants de la photo de mode dans la génération d'après. Effectivement, Irving Penn, Avedon et Helmut Newton, certainement un des plus grands.
Et peut-être, Franck Gaëté, mon petit doigt me dit, on ne s'est pas concerté, on peut peut-être aussi évoquer les films, mais peut-être un film sur Pina Bausch.
Bien sûr, non, c'est vrai que Peter Lindbergh, ce n'est pas que de la mode, c'est effectivement beaucoup de cinéma. Il a fait notamment des affiches de films, Les Prédateurs, Catherine Deneuve et Bowie. Il a fait parler avec elle aussi, de Almodovar. Et puis, ce film expérimental, donc sur une pièce de 2002 qui s'appelait Del Fonster Pudel.
Ah, j'aime bien, vous êtes aussi bon allemand que moi.
Ouais, tout à fait.
Ouf, ça me rassure
désolé.
Un peu.
Mais tout le monde aura reconnu
le titre
la pièce.
De la pièce, bien sûr.
En tout cas, c'est un film de 29 minutes qui est consultable en ligne. Je l'ai encore regardé cet après-midi sur son site, qui est expérimental parce qu'il remonte quelque part la trame narrative de la pièce de Pina Bausch sans lui enlever loin s'en faut de l'expression. Et puis il a aussi photographié les danseurs du ballet de New York. Moi, je me rappelle précisément d'une photo de lui. On parlait de ce sort de naturalisme, de réalisme en fait de la photographie, et bien sur des personnages qui sont plus spectaculaires, ça les donne à voir d'une façon totalement autre. Je pense à Mian Farmer, où Mian Farmer a été photographiée par lui et elle est complètement méconnaissable parce qu'elle n'a absolument aucun artifice en fait sur elle. Et puis je pense aussi à Jeanne Moreau parce que voilà, c'est quelqu'un qui a aussi photographié des femmes de tous les âges bien avant qu'il y ait des campagnes contre l'âge ou l'âgisme.
Ingrid ?
C'est vrai qu'effectivement, il shoot aussi le calendrier Pirelli à trois reprises. Et notamment
connu
en 2017.
Pour son bon goût, normalement, hein, le calendrier
Pirelli. Notamment en 2017, et c'est vrai que là, il s'en tient encore à son noir et blanc historique. Mais pour le coup, il rhabille les femmes, ce qui n'est pas un maigre geste dans le cadre du calendrier. Et il s'oppose farouchement à la retouche photo. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on visite ces expositions. Notamment le CO Museum de Berlin avait consacré une grande rétrospective à toute sa carrière, et on se rend compte en fait qu'il prend énormément de prises. Donc au début on se demande un peu pourquoi, puisqu'on est tellement habitué à ce fétichisme de l'instant unique, et c'est vrai que c'est vraiment pour ne pas avoir à retoucher, quoi, qu'il multiplie vraiment comme ça les négatifs, ce qui est assez impressionnant. Après, par rapport à une image culte, moi j'ai découvert qu'il avait shooté la campagne de Britney Spears pour Kenzo en 2018, auquel on s'attend pas du tout, parce que c'est de la couleur, c'est des motifs tropicaux, c'est absolument un décor comme ça, assez camp et assez kitsch. Mais effectivement, on voit que Britney Spears y est comme en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a plus 20 ans et qu'elle s'assume comme la femme d'aujourd'hui et comme la femme d'un certain âge qu'elle est, effectivement.
Mais il a travaillé jusqu'au bout, hein, Peter Lindbergh, puisqu'il était encore associé à ce numéro spécial, je ne sais plus quel grand magazine. La rédactrice en chef était la duchesse d'Essex.
Ah, le Vogue anglais. Ouais.
Voilà, c'était un Vogue anglais où il a aussi collaboré. Voilà pour une petite page, mais qu'on voulait consacrer ce soir à la mémoire de Peter Lindbergh.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Reprenons à présent le cours prévu de cette émission avec l'exposition en cours à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Nous, les arbres, visibles jusqu'au 10 novembre. Les commissaires en sont l'anthropologue Bruce Albert, Hervé Chandès et Isabelle Godefroy. Et les commissaires associés, Hélène Kettmaster, Marie Perrenne et la chargée de projet Juliette Lecorne. Voilà, ça, tout le monde est cité. J'ai pas trouvé de trace de scénographe. Bon, c'est un problème. Oui, vous avez une info là-dessus, Stéphane Correa.
C'est Nathalie Crinière, si j'ai...
Bah, j'ai cherché dans la documentation, partout, sur le site, dans les documents de presse, et je n'ai pas vu de nom de scénographe. Je sais que j'aime aller citer, évidemment. L'exposition, par contre, est ainsi présentée, ça j'ouvre les guillemets, réunissant une communauté d'artistes, de botanistes, de philosophes, la Fondation Cartier pour l'art contemporain se fait l'écho des plus récentes recherches scientifiques qui portent sur les arbres un regard renouvelé. Bon, disant cela, on balaye assez large. Effectivement, il y a des dessins, des peintures, des photographies, des films, des installations qui peuplent ce bâtiment du boulevard Raspail. Et parmi les invités de cette exposition, le botaniste et biologiste Francis Allais, que l'on peut retrouver dans une web-série que j'ai regardée avidement sur le site internet de la Fondation Cartier. On va écouter un extrait des propos de Francis Allais.
Les arbres, pour moi, c'est la manifestation de la vie que je trouve la plus sympathique. Ce sont les plus grands êtres vivants, de très très loin, énormes. Les baleines, c'est tout petit à côté. Moi, j'aime bien les arbres parce qu'ils sont très discrets. Ils font leurs choses. Et c'est à nous de les remarquer. Je voudrais montrer aux gens que la biodiversité, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et que on est encore très très loin d'en avoir fait l'inventaire. Et comme les forêts tropicales disparaissent très vite, on a des raisons de penser que tout ça va disparaître avant d'être réellement inventorié. Je trouve ça monstrueux. Mais enfin, je ne sais pas quoi faire.
Nous les arbres, on va débattre de cette exposition dans cette dispute, mais d'abord un petit tour de table, on reprend les bonnes habitudes, pour un résumé, un condensé de votre sentiment à ce sujet, sentiment que vous développerez, Ingrid Lukegand.
Alors c'est une exposition qui cherche à penser une altérité radicale en prenant le parti d'une sensibilité des arbres, et on se rend compte que les artistes ne sont pas forcément les mieux placés pour sortir du paradigme de la représentation.
Je vous expliquerai tous ces mots très compliqués que vous venez de prononcer. Stéphane Coréard.
Moi, j'ai beaucoup aimé cette exposition. Je trouvais que c'est une promenade belle, poétique et en même temps mélancolique.
Florian Guettet.
Une expo qui est conçue comme un écosystème de formes et de discours dans lequel peut-être le jugement critique a un peu, en tout cas, peiné à trouver sa place.
Alors, le parcours de cette exposition, Ingrid Lukegand, dans ses grandes lignes, pour donner quelques images à nos éditrices et auditeurs.
Alors, justement, on disait qu'il n'y avait pas que des artistes, puisqu'il y a aussi et surtout des spécialistes en botanique et en écologie. Beaucoup d'architectes également, qui sont présents par des plans et des modélisations des systèmes, des documentaristes, quelques artistes d'art contemporain, mais aussi des artistes qui sont, eux, dépositaires de traditions amazoniennes. Donc on a un panorama avec au final seulement une trentaine d'artistes, mais qui chacun présente des ensembles touffus et complexes. Donc on est vraiment effectivement comme dans un écosystème où on navigue entre différents ensembles. Il y a dans l'exposition trois fils narratifs qui seraient celui de la connaissance des arbres, donc à partir plutôt scientifique et plutôt biologique ou botanique. Un troisième fil esthétique qui serait plutôt celui de la représentation, qui est le point où c'est un peu plus difficile puisqu'un arbre reste un arbre, c'est justement ce dont on essaye de nous faire sortir. Et enfin, un troisième qui parcourt tous ces champs de pensée, tous ces champs d'images, qui est celui de la dévastation de l'écosystème naturel.
Stéphane, vous avez aimé cette déambulation, disiez-vous.
Oui, alors c'est vrai que les artistes contemporains s'en sortent peut-être pas au mieux. En même temps, moi ce que j'apprécie à la Fondation Cartier, c'est que c'est vraiment une famille. Ces artistes qu'on retrouve d'exposition en exposition, il y a une vraie fidélité dans ce lieu. Hein, donc... De Pardon, Zerbini qui était déjà dans la précédente exposition. Le tropisme, d'abord, il faut le dire, écologiste n'est pas nouveau à la Fondation Cartier. C'est quelque chose qui parcourt la programmation depuis longtemps. Donc, il faut quand même le saluer parce que c'est pas tout à fait un opportunisme.
Pas du tout, en l'occurrence.
Voilà. Donc, il y a déjà des expositions même consacrées entièrement. Il y avait celle sur les oiseaux, celle sur la Terre natale. Puis, même dans Géométrie Sud, par exemple, il y avait des artistes qu'on retrouve là, des problématiques, notamment autour de la forêt.
Brossalbert, il était déjà venu.
Absolument.
En tant que commissaire, il y a quelques années déjà.
Commissaire associé, me semble-t-il.
Oui.
Il faut dire aussi que l'exposition prend une ampleur particulière dans cet écrin de verdure magnifique qu'est le jardin de la Fondation Cartier, conçu par l'artiste Lothar Baumgarten, qu'il appelle lui-même, il est disparu l'année dernière, disait que il fallait guetter dans le temps la transformation d'une idée en un espace organique autour du grand cèdre planté par Chateaubriand. Il y a effectivement un effet d'actualité puisque l'Amazonie hante l'exposition, ce qui évidemment n'était pas...
L'exposition qui est ouverte avant l'été. Hein,
exactement, donc, ne pouvait pas être
au début de l'été.
Prévu et devient une allégorie en fait de cette perte de lien entre les hommes hommes, les animaux, les végétaux, enfin entre les hommes et le vivant, parce que finalement l'exposition s'appelle Nous les arbres, mais c'est nous les arbres et les animaux, c'est vraiment et les humains, pardon, c'est vraiment la relation avec les animaux que nous sommes.
Des animaux comme des autres.
C'est la relation entre l'homme et le végétal qui est mise en crise dans l'exposition. D'ailleurs, il y a les frontières sont très floues. Il y a le catalogue que je recommande est vraiment magnifiquement conçu et réalisé. Il y a un très beau texte notamment sur l'intelligence végétale de Stefano Mancuso qui justement brouille un peu les frontières entre ce qu'on croit savoir de où s'arrête finalement l'humain et où commence le végétal. Et le point de départ presque de l'exposition, c'est le film effectivement de Pardon et de Claudine Nougaret où d'une dizaine de personnalités parlent de leur relation avec leur arbre favori. Donc là, on est vraiment et l'exposition va se terminer d'ailleurs par une autre un autre grand film magnifiquement exposé. Il faut dire aussi que la Fondation Cartier met toujours les moyens pour montrer la vidéo de manière remarquable. Et là, c'est un film de l'artiste Paz Encina qui s'appelle Aromas del Viento, qui, je trouve, entremêle très joliment et très poétiquement, justement, à la fois la mémoire du végétal et la mémoire propre de l'artiste, puisque c'est à partir de ses premiers souvenirs d'enfance.
Alors, c'est vrai, Florian Guettet, dans cette exposition, il y a beaucoup d'amour, mais de l'amour qui confine à la fascination, quand même, pour la plupart, ou à l'obsession.
Tout à fait. En fait, même c'est un des partis pris, hein, c'est-à-dire d'éviter le discours, on va dire, écolo-culpabilisateur pour retrouver ou renforcer la relation sensible à la nature en s'appuyant sur les dernières découvertes en neurophysiologie végétale, notamment de Stefano Mancuso, mais aussi dont a parlé très bien en philosophie Emmanuel Coccia, qui fait aussi partie des scientifiques, des intellectuels qu'on a sollicités. Et c'est vrai que d'emblée, dès la première salle, il y a une forme d'injonction à l'observation patiente. Il y a donc cette sorte de forêt à la fois immersive et en 2D qui demande à ce qu'on ne prenne pas l'arbre comme simplement un arrière-plan et qu'on fasse preuve d'un regard beaucoup plus analytique, qui aille dans le détail, qui aille fouiller, qui aille chercher. Ça se voit aussi dans la table centrale qui est une sorte d'herbier extrêmement fourni avec des étages qui sont comme des sortes de points morts, hein, donc qui demandent aussi une sorte de gymnastique pour qu'on y aille. Donc il y a, ça demande de nous une forme de volontarisme presque sensible. Et au-delà de ça, il y a un deuxième axe qui me semble traiter et qui va dans cette idée de la fascination, qui est l'analogie entre l'homme et l'arbre. Parce que nous, les arbres, ce titre, on ne sait pas exactement si c'est un arbre qui dit, bon ben nous, les arbres, la communauté des arbres, on vous parle à vous les humains, ou si c'est nous, les arbres et nous, les humains, dans cette grande communauté du vivant. Et donc dans cette forme d'analogie, on est accueilli par une discrète photographie de José Cabral où on voit un bras qui se prolonge en un arbre et qui introduit finalement à cette thématique de résonance entre l'humain et le végétal. Et donc on se retrouve toujours partie prenante finalement de ce sujet. C'est parfois difficile de prendre du recul. De la même façon quand on arrive sur les œuvres, les produits de scientifiques, Francis Allais dont on a parlé, mais aussi Cesare Leonardi et Franck Castaldi qui ont produit un ouvrage qui s'appelle L'architecture des arbres et qui ont donc répertorié dans des dessins extrêmement minutieux qu'on regarde à la loupe toutes les espèces qu'ils ont pu observer. Et bien même quand on arrive face à un discours scientifique, c'est difficile de garder véritablement en jugement parce qu'on a l'impression qu'on est déjà le sujet d'observation qu'on est en train d'évaluer. Donc pour un critique, c'était pas très simple finalement de se retrouver avec cette sorte de gymnastique du regard à évaluer comme ça des productions extrêmement différentes de l'art contemporain aux indigènes, de l'outil vernaculaire à la thèse scientifique.
Ingrid Lukegan opine à vos propos, Florian Guettet.
Oui, alors moi, c'est vrai que ce qui m'a le plus intéressé, c'est vraiment les efforts pour modéliser cette sensibilité végétale, c'est-à-dire que c'est un processus de croissance. Puisque dans sa vidéo, Francis Allais nous explique que l'arbre est doué d'une sensibilité plus grande, puisqu'il ne peut pas se déplacer. Donc il est obligé de ressentir avant les humains et avant les animaux tous les périls environnementaux qui pourraient le menacer. Donc cette sensibilité-là, c'est vrai qu'on la retrouve moins quand on a des dessins d'arbres, au sens un peu comme ça, littéral. Pour moi, il y a trois œuvres qui mettent vraiment en jeu une nouvelle manière de représenter le vivant, qui est évidemment Fabrice Ibert, qui est tout à fait à sa place dans l'exposition, puisque lui peint des toiles avec des espèces de flèches comme ça dessinées au fusain. Donc on sent qu'il se passe plein de choses qu'on ne perçoit pas quand on dessine simplement un arbre. Et enfin, c'est vrai que moi, les deux œuvres qui m'ont plus intéressée venaient d'architectes, Je suis tout à fait d'accord avec toi, Florian Guettet, par rapport
avec
au
vous,
travail.
Hein. C'est la rentrée, mais quand même, vous. C'est avec vous.
Par rapport au travail remarquable des deux architectes, Cesare Leonardi et Franca Stadi, qui dans les années 60 à 80 se mettent à faire un relevé absolument minutieux de toutes les espèces d'arbres, qui publient dans un volume qui s'appelle L'architecture des arbres, qui est publié en français pour la première fois par la Fondation Cartier, et qui modélise également dans les parcs tous les changements de saison. Ce qui va donner lieu également à une production plastique. Ils vont réaliser des sculptures, qui sont des sculptures abstraites, où on sent cette pensée du système qui sort un peu du regard optique et bêtement frontal qu'on aurait, nous, les bipèdes. Et enfin, il y a une deuxième vidéo de Dilor Scofidio et Renfro, qui sont également un duo d'architectes, qui s'appelle Exit, réalisé en 2008 sur une idée de Paul Virilio, et qui appartient à la Fondation Cartier. Et eux modélisent 15 cartes de déforestation et de langues en péril à travers le monde entier, en adoptant une esthétique un peu à la Matrix, un peu net art, comme ça, avec des lettres et des chiffres qui s'animent dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est absolument vital de changer nos représentations pour prendre en compte justement ces arbres qu'on ne domine pas, qu'on ne possède pas, mais qu'il faut néanmoins absolument laisser exister.
Une œuvre à recommander.
Oui, de toute façon, ce qui est très beau dans l'exposition, c'est le rapport entre justement le dessin, qui seul peut saisir l'arbre, puisque la photographie ne peut pas l'isoler, et ce temps long de l'arbre. J'aime beaucoup la phrase de Bruno Munari qui dit « L'arbre, cette explosion infiniment lente d'une graine ». Et c'est exactement ce qu'on ressent dans l'exposition. Bah, évidemment, Cesare Leonardi, Franca Stagi, qui effectivement s'intéresse aussi à la couleur des arbres suivant les saisons, à l'ombre qu'ils vont porter. Et en fait, il dessine des jardins à partir de ça, qui sont pensés pour les arbres et non pas pour les humains. Mais sinon, une œuvre en plus, je dirais, c'est celle des Indiens, paraguayens ou brésiliens, qui on avait déjà vu pour partie dans l'exposition Géométrie Sud, des dessins en noir et blanc absolument magnifiques, où ces Indiens racontent de l'intérieur, de manière saisissante, la vie qu'ils mènent, eux, dans cette forêt, et leur relation avec les animaux, la déforestation, les climats qui se modifient, les esprits qui les accompagnent. Et ça peut prendre une allure totalement sinueuse, comme les dessins d'Esteban Classen, qui sont profonds, luxuriants, profus, et ou anguleux, au contraire, comme ceux de Marcus Ortiz, qu'on avait déjà vu dans Géométrie Sud et que j'avais déjà souligné, et que je vous invite encore à aller voir, qui lui saisit la structure intime des arbres au crépuscule.
Quelques mots encore, Florent Guettet, pour conclure.
Oui, puisque Stéphane parle des artistes indiens, d'Amazonie ou alors des tribus Nivaclés au Guarani, c'est vrai qu'il y a peut-être une proposition quand même dans cette exposition sur laquelle on peut s'arrêter, c'est une forme de nostalgie, une sorte de paradis perdu, parce que finalement, à chaque fois qu'on parle du présent ou du futur de la forêt, bah, c'est sous l'angle de la dévastation. Et donc il y a un retour comme ça, une pensée primitive, naïve, on voit ça dans les œuvres qu'on a dit, mais aussi chez des artistes iraniens, chez Mahmoud de Cannes, chez Salim Karami, chez Santidio Pereira, c'est-à-dire de revenir à une forme de candeur presque de l'approche de l'arbre. Et c'est vrai que la complexité ne fait pas tout, donc ça fait du bien de se donner un peu de légèreté.
On peut se faire du bien jusqu'au 10 novembre à la Fondation Cartier pour l'art contemporain en allant voir cette exposition Nous les arbres, et puis on recommande en effet le catalogue de cette exposition édité également par la Fondation. Encore un riche programme à suivre dans les 30 et quelques minutes qu'il nous reste. Le mobilier d'architecte, la peur d'aimer, Étienne Aucaré.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec l'exposition Le mobilier d'architecte 1960-2020, à découvrir cette fois jusqu'au 30 septembre à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Le commissaire en est Lionel Blesse, les commissaires associés sont Claire Fayol, Marie-Hélène Contal et Francis Rambert, assisté de Christine Blanchet. La scénographie, là c'est précisé, est signée par le studio Adrien Gardère. Alors on sait que nombre de grands architectes ont voulu faire œuvre totale en signant aussi mobilier et luminaire de leurs projets. On connaît bien cette dimension créative, que ce soit pour le Bauhaus ou pour la Sécession viennoise ou d'autres écoles. C'est peut-être moins documenté ou moins étudié dans une période plus récente, et c'est l'objet de cette exposition que dit Remédier, avec près de 300 pièces de plus de 125 architectes. Le mobilier d'architecte 1960-2020. Premier sentiment sur cette exposition, Stéphane Coréard.
Ah, j'ai trouvé que c'était une exposition totalement confuse qui passait à côté de son sujet.
Florian Guettet.
On s'est d'accord, un bel ensemble dans un beau lieu, mais quelle direction ?
Luc Egan.
Oui, moi je dirais que les articulations sont assez finement contextualisées à condition de les trouver.
Alors justement, Stéphane Coréard, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditrices auditeurs qui vont peut-être pour la première fois, pour certains, aller à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui mérite les détours, on en reparlera, comment ont été installées les pièces de cette exposition ?
Ah ben là, ils vont tout visiter, hein, puisque c'est signe de piste. L'exposition parcourt l'entièreté de ce musée qui est gigantesque et labyrinthique, de haut en bas. On commence tout en haut par la bibliothèque, où on serpente au milieu des chercheurs et des gens qui essayent de travailler, ce qui est quand même assez rare, jusqu'en bas, puisque là, on traverse des corridors de souterrains et humides, oui, qui d'habitude semblent plutôt réservés à des pauses cafés. D'employés, oui, ou alors plus prosaïquement, c'est des espaces détente, un peu comme ceux qu'on a ici, mais humides.
Ils deviendront bientôt humides ici.
Alors, je recommande aussi aux visiteurs de ne pas quitter des yeux les panonceaux rouges suite de l'exposition. Il faut vraiment les chercher parce que là, vous risquez d'être perdu, égaré.
Mais c'est malin parce que comme ça, on visite tout le musée.
Éventuellement, ils peuvent prendre aussi des vivres et de l'eau parce que le musée mesure quand même 22 000 mètres carrés. Je les préviens, et donc plusieurs centaines de meubles et d'objets, comme vous l'avez dit. La scénographie, effectivement, du coup, est déroutante. Hein. Les objets et les meubles sont parsemés, comme ça, dans les collections permanentes aussi, hein, pas que dans la bibliothèque et les espaces détente. Mais ça peut être des salles extrêmement différentes. Il y a donc ces espaces de travail ou d'accueil. Il y a des chapelles, hein, qui normalement sont des reconstitutions de peintures plutôt haute époque, dans lesquelles il y a du mobilier très avant-gardiste. Il y a des grandes salles de moulage d'éléments d'architecture à échelle 1. Il y a aussi après des maquettes. Donc à chaque fois, il faut chercher vraiment. C'est épuisant pour le regard, à mon avis. Surtout si on n'est jamais venu dans le musée et qu'on re-regarde, du coup, ces choses magnifiques qui sont là. Parce que là, on se perd totalement. D'autant que la scénographie ne permet pas de distinguer les objets de l'exposition du reste du musée et que le scénario de l'exposition est totalement éclaté en dizaines de mini-sections dont on a du mal à saisir. Alors j'attends que Ingrid nous éclaire la pertinence. Par exemple, il y a deux sections seulement géographiques, c'est le Brésil et le Japon. Il y a des sections sur des entreprises, il y a des sections sur des mouvements d'architectes. Et finalement, si on suit le parcours d'exposition, c'est qu'à la fin, dans la dernière salle qui, elle, pour le coup, est dans le noir et où il n'y a plus que des objets d'exposition.
C'est la salle d'exposition temporaire
habituelle. Voilà qu'on découvre vraiment la structure qui, dans le catalogue, est plus lisible, mais je ne recommande pas pour autant la lecture du catalogue, puisqu'en fait, il y a une espèce de jeu de cette famille, hein, des architectes designers, par exemple l'engagé, le passionné de design, le designer occasionnel, c'est quand même pas très haut en termes scientifiques. Et puis on finit par un diaporama façon PowerPoint éclaté sur 7 écrans, là, sur le mobilier signature. Alors là, on peut pas regarder tous les écrans à la fois, on comprend rien. Et c'est une espèce de flash comme ça, où on voit tout le mobilier et l'architecture, auteur par auteur. Bref, ça swing.
Bon, il y avait déjà quelques sentiments et quelques avis déjà dans cette description, Stéphane Coréard. Mais Florian Guettet, alors, est-ce que le sujet est un bon sujet ? Est-ce qu'il est bien traité ? Ce sont les questions quand même, on s'amuse un petit peu, mais j'aime beaucoup ce lieu, donc je suis toujours content d'y aller. Hein, mais ce sont les questions qu'on se pose quand même.
Bah, est-ce qu'il y a un sujet ? C'est vrai qu'en fait, on nous explique qu'à partir des années 60, finalement, on est dans l'après-Seconde Guerre mondiale, que les architectes, ils avaient autre chose à faire que faire du mobilier, donc ils sont revenus à la construction, mais qu'alors, en fait, ça faisait quand même 2 siècles qu'ils faisaient de toute façon des objets de mobilier, qu'il y a eu effectivement une zone, le Bauhaus, qui a un petit peu scellé, on va dire, le mariage entre les arts décoratifs et l'architecture, et qu'après, donc, comme les architectes ne se sont pratiquement plus occupés de bâtiments, eh bien, il y a eu de nouveaux métiers émergents, designer, architecte d'intérieur ou space planner, je crois. Et donc finalement, certains ont résisté à cette tendance à revenir au bâtiment et ont continué à faire des objets. Mais finalement, on a l'impression d'une sorte de continuité finalement avec une tradition architecturale qui a toujours été là. Et on peine en fait à trouver la spécificité des architectes par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les designers. Donc effectivement, on a une typologie pas très excitante. Hein. On a ceux qui font, qui ont arrêté l'architecture, ceux qui en font de temps en temps, ceux qui sont passionnés par le design. J'espère que les autres travaillent un petit peu avec passion aussi. Ceux qui sont devenus des fabricants, ceux qui sont devenus, qui ont édité des meubles, ça nous apprend rien de véritablement de cette forme. Enfin, ça ne pense pas véritablement la question. Par exemple, on nous dit, on essaie quand même de trouver des choses. On nous dit, par exemple, un designer, il pense le luminaire en tant qu'objet, et un architecte, il pense la lumière directement. On peut essayer. Donc ça s'est répété plusieurs fois. Donc on essaye de mettre en application ça. On trouve
On peut argumenter aussi.
Ouais. Donc on trouve un Jean Nouvel. Alors Jean Nouvel, c'est quand même celui qui a dit je ne suis pas designer, je suis un architecte qui fait du design. Eh bien l'exposition n'arrive pas plus à justifier sa position que Jean Nouvel. Et donc lui, il a fait une lumière qui s'appelle Onlines, qui sont des plaquettes colorées filtrantes qu'on peut comme ça personnaliser pour trouver sa propre lumière. Donc on peut composer quelque part sa lumière. Pour moi, c'est de l'objet au même titre que n'importe quel luminaire. Je vois pas à quel moment cette distinction entre lumière et luminaire, elle est opérante. Et puis, on s'interroge beaucoup moins, par exemple, sur les changements d'échelle, ce qui est assez bizarre, mais effectivement, on les trouve que sur les projections de la fin, où on met véritablement en lien, comme ça, assez direct, des objets avec des architectures, sous la bannière de la signature. Voilà. Donc, c'est le seul moment où on peut avoir véritablement un point de comparaison. Mais du coup, oui, j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment au bout de son propos, et ça passait souvent à côté de son sujet, à cause d'arguments un petit peu courts.
Alors, le moment que Stéphane Correa attend, celui où Ingrid Luckegaard nous explique les articulations contextualisées réussies de cette exposition.
Oui, non, mais alors justement, pour moi, c'est vraiment, on n'a pas précisé qu'on était aussi dans un lieu qui montre quand même des moulages et des reproductions de véritables monuments
par Stéphane Correa
et de véritables peintures.
Ouais.
Mais disons que pour quelqu'un qui connaît pas le lieu, c'est vrai qu'on comprend pourquoi montrer du design, puisque c'est aussi comme ça une espèce de reproduction où on serait dans un. Je pense que pour eux, enfin, il y avait aussi cette mise en parallèle de deux manières de penser, justement, non pas l'architecture en bloc, mais quand même cet objet qui se diffracte et qui peut aller dans les foyers des citoyens, comme on irait voir des reproductions. Bon, pour moi, c'est plutôt un jeu formel, un jeu purement visuel, qui est plutôt une bonne manière, effectivement, de voir l'ensemble des collections si on n'y a jamais été. J'ai trouvé notamment assez drôle la salle du gothique flamboyant comparée à Memphis, à ce groupe de design italien des années 80. C'est vrai que bon, visuellement, on est quand même dans une espèce d'apothéose comme ça du kitsch et de l'outrancier. Et pour moi, c'était vraiment davantage peut-être une expo sur le postmodernisme dans son ensemble. C'est vrai qu'on est quand même dans une recontextualisation assez libre d'éléments architecturaux qu'il est plus facile de faire dans le design qu'à l'échelle d'architecture. On est dans un musée qui est déjà un musée du fragment, et on le retrouve quand même pour moi dans le choix des éléments qui sont exposés ici. On a par exemple un service à thé de Charles Jenks, qui est fait sous forme de colonne dorique. On a aussi Robert Venturi, donc on a vraiment tous les théoriciens de l'architecture postmoderne sont là. Donc je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais il y a quand même une espèce de réflexion pour moi sur le postmodernisme et sur cette esthétique du fragment. Et l'exposition s'amuse avec des parallèles qui sont purement visuels, où effectivement ces objets de design ne sont pas forcément à leur place, elles ne sont pas forcément contextualisées par rapport aux travaux des architectes, mais éclairent en retour cette logique du fragment qui est celle de ce drôle d'endroit qu'est la Cité de l'architecture et du patrimoine.
Alors, on l'a peut-être pris trop sérieusement, finalement, Stéphane Correa, cette exposition. Manque l'esprit de légèreté ou d'amusement.
Absolument, je me rends compte en écoutant Ingrid que c'est le commissariat qui est postmoderne. Donc, de ce point de vue-là, je pourrais tout à fait être d'accord. Mais je voudrais revenir effectivement sur ce que disait Florian Guettet. Je pense que les deux questions auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses, c'est la première, effectivement, très intéressante, c'est en quoi le mobilier architecte est différent du mobilier de designer, puisque effectivement c'est quand même le propos de l'exposition. Hein. Et deuxièmement, comment s'articule chez un même auteur son travail de l'objet et son travail de l'architecture. Et à ces deux questions, là on cherche vraiment les réponses. Et ce qui est curieux, c'est qu'à la fin, il y en a presque une... On l'entreaperçoit, il y a une niche consacrée à Carlo Scarpa, où il y a une table de 1970 qui s'appelle la table Samo, et en fond, il y a une grande photo de son tombeau pour la famille Bryan, qu'il a érigé près de Trévise à partir de 69. Et là, d'un coup, effectivement, ça crépite. On se rend compte qu'il y avait des choses à dire. Et on peut les voir dans quelques rares moments d'exposition. Je trouve où il y a eu l'effort de faire des ensembles. Il y a des choses d'abord magnifiques. Il faut quand même dire qu'il y a des objets magnifiques et des meubles magnifiques dans cette exposition. Il y a même quelques moments de grâce. Je voudrais citer notamment l'ensemble sur Angelo Mangiarotti, qui est un sublime architecte dessinateur, vraiment la belle forme italienne, mais qui est également un ingénieur. Et là, c'est un système qui s'appelle un programme qui s'appelle Cavaletto de 1955, qui permet de réaliser absolument toutes sortes de mobilier à partir d'une espèce de chevalet qui sert à la fois de structure et d'éléments décoratifs. Et puis effectivement, là, j'abonde aussi ce qu'a dit Ingrid, ce qui est absolument magnifique, et je les avais pas vus en entier, c'est la série des Tea and Coffee Piazza, édité par Alessi en 83, qui sont, alors c'est des services à thé en argent, ceux de 83, puis après ceux de 2003, ce qu'il refait avec d'autres architectes en 2003, sont plus sur l'hybridation des matériaux. Mais là, ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'il y a un plateau, une théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait. Et là, on est dans une micro-architecture. Mmh. Et c'est magnifique. Il y a celui d'Aldo Rossi, évidemment, qui est sublime, Hans Holein, etc. Et là, on est même dans de l'urbanisme, à l'échelle de l'objet. Et là, je trouve que c'est absolument passionnant. Mais après, malheureusement, on perd totalement ce fil dans l'exposition.
Mais sur cette question qu'on se posait, Ingrid de Kegan, est-ce que vous avez trouvé des réponses en quoi, effectivement, le mobilier d'architecte est différent du mobilier d'un designer?
Ah, je pense que c'est purement un plaisir esthétique et qu'il faut le prendre de manière d'un jeu visuel. Non, parce que c'est vrai que après ces questions-là, ces questions d'ensemble, si on ne sait pas ce qu'est un éditeur de meubles, on ne comprend pas trop comment ça vient dans l'affaire non plus, puisqu'on a un nom qui va être un nom d'un designer, qui va se retrouver un nom d'un éditeur. Enfin, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop à l'intérieur des ensembles comment ça fonctionne. Et après, effectivement, si on ne connaît pas le lieu, on comprend le jeu justement de ces objets-là avec ces fragments de monuments.
Florian Guettet, qui va encore conclure.
On a eu quand même de beaux moments. Enfin, moi, j'ai eu
des
beaux
moments. Bien sûr, on est un peu circonspect sur la façon dont est traité le sujet.
Exactement,
qui nous est donné.
Après, sur le contenu, il y a de très belles découvertes ou redécouvertes. Il y a des icônes, le fauteuil Pantone, des chaises des frères Rims, le fauteuil en inox de Libeskind. Enfin, on retrouve quand même des choses qu'on avait envie de voir. Ce tabouret très austère de Le Corbusier avec juste deux fentes comme ça qui le rendent modulable. Il y a la salle Zaha Hadid qui est sous la coupole avec ses copies de peinture romane, mais qui fait son effet, qui donne une sorte de caractère un peu plus hiératique à son canapé. Iceberg ou alors à sa table aquatable qui devient une sorte d'hôtel. Dedans, on trouve dans une petite niche aussi cette sorte de chaise biomorphe en fibre de coco de Vidrigan Lee. Donc il y a quand même des petits moments, des stations en fait dans ce parcours qui sont assez gracieuses et pleines de grâce. Donc il faut chercher, en fait, beaucoup chercher.
Prenez le temps, prenez des bonnes chaussures. Rendez-vous à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine d'ici le 30 septembre pour découvrir cette exposition, le mobilier d'architecte 1960-2020. Et donc il y a un catalogue, même s'il n'est pas recommandé par Stéphane Correard, qui est coédité par la Cité, par DASEA. Coup de cœur ce soir donné par Stéphane Correard, exposition Étienne au carré jusqu'au 15 décembre à la MABA. Étienne Robial.
Oui, Étienne Robial, on le présente comme un graphiste. En réalité, c'est un homme orchestre de l'art populaire français. Il est né en 45, il a étudié en Suisse. On peut donc s'attendre à un graphiste rigoureux, mais c'est aussi un graphiste très inventif et un bricoleur de génie. Même si on ne le connaît pas, on connaît ses œuvres, forcément, puisque, comme je l'ai dit, il a réalisé beaucoup de choses très populaires dans l'édition, dans la bande dessinée, les humanoïdes associés, c'est lui à suivre, et il a créé en tant que... il a dirigé cette maison Futuropolis, une maison mythique qui a largement contribué à mettre la notion d'auteur au cœur de la bande dessinée avec sa compagne de l'époque Florence Sestac. Dans la presse aussi, c'est lui qui a refondu la marque L'Équipe. Il avait déjà fait le PSG avant, donc il est aussi dans le sport. C'est lui qui a fait aussi l'avant-dernière version des Inrecuptibles en 2010. La musique, des pochettes de disques, notamment jazz et punk, Star Shooter, les Dogs. Il a même fait un très beau livre illustré avec Elie Medeiros pour Futuropolis. Il a fait aussi la plupart des affiches d'Alain René pendant très longtemps. C'est lui qui a fait le générique pour Le Fond de l'air est rouge de Chris Marker. Et puis son grand œuvre le plus populaire, c'est la télévision. Il s'est d'abord fait la la main sur les enfants du rock. Et puis ensuite, il a fait l'habillage de Canal+ pendant 20 ans. Et quand je dis l'habillage, c'est lui qui a inventé totalement ce métier de l'habillage d'une antenne. Et tout ce que vous avez vu, tous les génériques de début, de fin, de pub et de Canal+, c'est lui. Et il a poussé le sens du détail. Il avait tellement les mains libres qu'il a même fait la signalétique du parking, tous les objets dérivés. Enfin, il a tout fait. C'était l'homme orchestre aussi de Canal. C'est donc quelqu'un qui va jusque dans un sens du détail incroyable. Et en fait, de détail, là je commencerai par la fin, il y a une salle consacrée justement à son travail sur Canal+, et il y a des risographies sur les différentes croix, et on apprend que de la même manière que la croix du drapeau suisse, qui est d'apparence totalement carrée, en fait a des proportions pour chacune de ses branches de 6/7, la croix de Canal+ n'est pas du tout une croix régulière, elle est totalement décentrée dans le coin supérieur droit, puisqu'il y a deux branches qui font 10/12 et deux qui font 11/12. Dans la série, il décortique aussi les croix d'Aurélie Nemours et Joseph Beuys. Donc vous voyez que ça part vraiment tous azimuts. L'exposition se déroule sur les deux niveaux de la MABA.
La maison d'art Bernard Antonioz.
Absolument, à Nogent-sur-Marne, endroit magnifique. Mmh. D'ailleurs, il y a d'autres expositions à voir en ce moment, notamment d'affiches de cinéma. Je dois dire que j'ai rarement vu une exposition de graphisme aussi intelligemment pensée, montée, construite par son commissaire. C'est globalement chronologique.
Etienne Hervis. Le commissaire.
Absolument, c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça s'appelle Étienne au carré. C'est aussi Étienne Robial et Étienne Hervy. Mais il y a très peu de bavardage et c'est vraiment les objets qui permettent de saisir le fond de l'œuvre de d'Étienne Robial. C'est un hommage à Max Bill, l'exposition, mais effectivement donc je voulais parler d'Étienne Hervy. Ils sont tous les deux s'appellent Étienne. Il y en a un qui a un accent et l'autre qui n'a pas d'accent. Et c'est une autre piste parce qu'on peut faire aussi un jeu dans l'exposition sur la capitale accentuée dont Robial est un ennemi et il est quand même obligé parfois d'en mettre et il joue avec ça. Donc je vous incite à y aller. L'entrée est libre. Il y a une publication numérique gratuite. Donc vraiment aucune excuse pour manquer cette exposition.
D'autant qu'elle dure jusqu'au 15 décembre, cette exposition Étienne au carré à la MABA.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Dernière exposition à notre affiche ce soir, d'un genre particulier, puisque l'artiste britannique Tracy Emin a été invité par Donatien Gros à choisir des dessins dans la collection du musée d'Orsay pour les mettre en dialogue avec ses propres pièces. L'ancienne Young British Artist qui à ses débuts, a défrayé la chronique et depuis 2011, un très respectable titulaire de la chaire de dessin à la Royal Academy of Arts de Londres. Le dessin, c'est donc l'un de ses médiums de prédilection. Notons que c'est la première exposition de l'artiste dans une grande institution française. Il était temps. Est-ce que c'est la bonne? C'est une autre question. Sa thèse de votre opinion sur l'exposition, Florian Guettet?
Tracy Emin à Orsay ou les petites confessions au crayon d'une ado torturée.
Waouh. Ingrid Luquegada.
Alors, il y a une scénographie en deux couloirs. D'un côté, les dessins de Tracy Emin, de l'autre, la collection du musée d'Orsay. Donc, autant dire que le dialogue ne s'enclenche pas vraiment.
Et enfin, Stéphane Correa.
J'abonde, j'allais dire un dialogue de sourds.
François de François and the Atlas Mountain dit avoir peur de Tracy Emin. On a même fait donc le titre d'une de ses chansons. De quoi a peur Tracy Emin? D'aimer peut-être, hein, si on croit le titre de son exposition à Orsay. Florian Guettet, je l'ai dit, première grande exposition de cet artiste, qui est quand même grand artiste depuis quand même de nombreuses années, disons, dans le monde de l'art. Première exposition dans une grande institution française. Est-ce que pour autant ça lui rend justice? On a déjà eu quelques pistes de réponse, me semble-t-il, autour de cette table.
Disons qu'en tout cas, ça lui assure une entrée à la fois discrète et biaisée sur son travail. Discrète parce qu'effectivement, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus conséquent. Là, on a un dialogue entre deux salles, 17 dessins récents qui appartiennent tous, en gros, à la même série, hein, sur le même format, réalisés entre 2018 et 2019. Et de l'autre côté, pratiquement deux fois plus d'œuvres empruntées au fonds d'art graphique du musée d'Orsay. Donc c'est un petit peu frustrant. On ne demandait peut-être pas une rétrospective, mais l'entrée...
Ce ne serait pas Orsay de l'affaire, la rétrospective.
Bien sûr, mais l'entrée est un peu discrète sur la scène institutionnelle française. Et puis biaisé parce que Tracey Emin, c'est vrai qu'on la connaît peu en France parce qu'elle est peu montrée, mais c'est quand même une fille à scandale. Hein. C'est quand même, elle fait partie de la Young British Generation, c'est-à-dire une génération d'artistes qui dans les années 90 a affirmé son goût pour la transgression. Elle a cousu tout le nom de ses amants sur une petite tente d'enfant. Elle a présenté pour le Turner Prize son propre lit d'effet avec des préservatifs usagés, des culottes tachées de sang. Elle s'est fait connaître du grand public parce qu'elle a fait un esclandre complètement ivre sur un plateau de Channel. Fort. Or, à Orsay, c'est plutôt le versant membre de la Royal Academy qu'elle nous présente, admiratrice des Gunchiller, qui a mis un néon rose dans le style un peu Dirty Dancing à la gare Saint-Pancréas en écrivant « I want my time with you ». Et puis un académisme donc du lieu qui devient contaminant sur son œuvre puisque j'ai trouvé l'ensemble extrêmement sage. Alors bien sûr, elle garde une frontalité dans la représentation de l'intime. Hein. Elle a travaillé notamment beaucoup sur son viol, sur la mort de sa mère, sur ses avortements, sur ses relations amoureuses compliquées, etc. Donc ça, on le sent, hein, ça reste là. Mais du coup, elle est un peu réduite à ça puisqu'on ne présente que cette face-là de son travail. Donc dans la première salle, sur les 17 dessins, on voit beaucoup de dessins dont on ne sait pas si ce sont des portraits ou des autoportraits de femmes dans des positions plutôt lascives, un peu comme si la pulsion de mort se mettait à dessiner, quoi. Hein. On a quelque chose d'assez angoissé, avec une réflexion sur la vieillesse, le temps qui passe, l'asphyxie, le trait nerveux, angoissé, l'amour c'est la mort, etc. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez balisé, on va dire. Et dans la deuxième salle, des dessins qui essayent de répondre à ça, de dire qu'elle s'inscrit quand même dans une tradition, qu'elle n'est pas la première à jouer avec cette peur d'aimer là. Donc ça passe de Edgar Degas, pardon, à Constantin Guis, avec des Paul Gauguin, et puis des sortes de bizarreries qui m'ont plus intéressé, notamment une scène de chasse qui est une scène de viol de Jules Bastien Lepage.
On y reviendra. Ingrid Luc Egan, sur cette expo Tracey Emin.
Bah alors moi, l'œuvre qui m'a le plus intéressée parmi celles de Tracey Emin, c'est la toute première. C'est un cercle, tout simplement, tracé à l'acrylique sur papier, qui date de 2018 également. Et par ce cercle, en fait, on se dit qu'on va vraiment rentrer dans une exposition où une artiste contemporaine relie l'histoire du dessin. Puisque ce cercle, c'est une référence évidente, puisqu'elle a été reprise par beaucoup d'artistes, à la légende qui veut que Giotto, donc ce peintre de fresques du XIVe siècle, lorsque le peintre Benoît XII était venu le voir pour lui...
Le pape Benoît XII, plutôt que le peintre Benoît XII. Mais il était peut-être peintre, hein. Non, c'est beau hein, comme lapsus. Le peintre Benoît XII, allons-y. Le pape était venu le voir, pardon.
Le pape était Giotto. Venu le voir pour lui faire décorer l'église Saint-Pierre à Rome. Et donc tout le monde pense qu'il va lui faire un dessin naturaliste d'une extrême précision. Et là, Giotto trace à main levée un cercle parfait. Et c'est comme ça qu'il remporte le concours des fresques. Donc ça, c'est un motif qui a été beaucoup repris dans l'histoire du dessin, qui serait peut-être un peu même le fondement d'un dessin qui ne serait pas naturaliste, mais qui irait vers des qualités plus réfléchies, plus mentales. Mais après ça, ça se délite puisqu'on a la même figure répétée d'une odalisque raturée et un peu ratée comme ça dans plusieurs positions, debout, allongée, avec plusieurs manières de décliner ce motif. Il faut savoir que ce motif avait déjà été employé par l'artiste lors d'une exposition pas si vieille puisqu'elle date de 2015 lorsqu'elle avait exposé au musée Léopold de Vienne. Dans un duo justement avec Schiele, puisque l'artiste est une grande admiratrice de Schiele qu'elle découvre par les pochettes de David Bowie. Et dans cette exposition-là, c'était vraiment livré à un vrai dialogue qui passait également par la pop culture. On avait donc Tracey Emin, David Bowie et Schiele. et où elle utilisait déjà cette manière de représenter des femmes comme ça, à l'acrylique, avec la rature. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était plutôt des scènes de sexe. Et là, on en a une version donc un peu édulcorée quand même, un peu en bourgeoisie, puisque ce sont des femmes alanguies qui pourraient aussi bien être des madones.
Et puis c'est vrai que c'est quand même pas faire un cadeau à Tracy Emin de dire allez prendre les dessins que vous aimez et montrer les vôtres avec, parce que je me dis, devant ce qu'elle fait, ça ressemble là, mais en moins bien. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça pour Tracy Emin.
Justement, elle a quand même essayé.
Dans cette exposition,
Elle a essayé d'éviter ce piège. Alors là, vous avez raison, je trouve, Arnaud, c'est que l'exposition montre à la fois les limites de ce genre d'exercice qu'on commence à voir beaucoup, c'est-à-dire inviter un artiste contemporain dans un musée d'art ancien et faire une exposition temporaire à partir des collections permanentes, ce qui est une petite astuce pour faire des expositions pas trop chères, pourquoi pas. Là, dans ce cas précis, c'est encore plus gênant parce qu'il n'y a pas de catalogue qui vienne soutenir scientifiquement le projet et nous expliquer vraiment le fond des relations qui peuvent se nouer. Mais ça en fait aussi le charme parce que finalement, comme souvent, elle fait un choix un peu de biais, justement, et elle va sortir des réserves,
forcément.
Et surprenant. Ceci dit, là où justement je mettrai un bémol par rapport à la précédente expérience avec Egon Schiele, c'est que là elle fait un choix qui est très tranché, très orienté, ce qui n'est pas surprenant de sa part, c'est quelqu'un de vif et de tranché, parce que la plupart des dessins sont des petits formats, sont des études même pour beaucoup, hein. Il y a très peu de dessins aboutis, même si en réalité ils sont bien plus aboutis que les grandes tartines de Tracy Emin, dont la majorité sont l'œuvre d'artistes inconnus ou méconnus, même s'il y a des grands noms effectivement de gars, mais c'est plutôt des dessins académiques. Un Gauguin et Bonnard, deux tout petits crayons, des œuvres qu'on pourrait dire mineures, même si c'est des grands artistes et qu'elles peuvent être très belles. En tout cas, c'est pas attaqué aux gros morceaux d'Orsay. On n'a pas sorti les plus beaux dessins d'Orsay. C'est un petit peu roublard, un peu malin quand même de sa part. D'ailleurs, beaucoup des dessins, c'est à noter, sont l'œuvre de dessinateurs populaires, voire d'illustrateurs ou décorateurs, et non pas finalement de grands artistes reconnus comme tels. Et ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'aucun n'est l'œuvre d'une femme. Elle ne s'est confrontée qu'à des hommes. Il y a une petite exposition dossier sur Berthe Morisot et son entourage en face avec des dessins du coup que je recommande. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des pépites, hein, c'est souvent ce qui se passe dans ce genre d'exposition. Florian ou Ingrid ont cité Le Chasseur de Jules-Bastien Lepage, effectivement très très étonnant, très contemporain comme dessin, et surtout Steinlein qui est là en majesté. Il y a une dizaine de dessins de Steinlein qui sont quand même incroyables. C'est un incroyable dessinateur, qui était un dessinateur populaire, qui dessinait dans les journaux, des caricatures, etc. Mais là il y a une femme nue allongée, il y a des chats qui sont originaux avec des poses, des qualités de dessin différents, avec des techniques différentes. Les couples sont absolument magnifiques. Il y a une tête de femme endormie sur un oreiller d'Armand Berton que je ne connaissais pas, qui est magnifique. On dirait.
Vous connaissez pas Armand Berton.
On aurait dit un dessin de Bacon si Bacon avait fait des dessins. Sur Tracy Emin, ce qui m'a vraiment dérangé pour le coup, c'est qu'elle dessine exactement comme Bas Dietz le fait depuis 10 ans. Et j'ai l'impression que c'est vraiment de la décalcomanie.
Ingrid de Kegan.
Au passage, il y a aussi un problème sur le statut de la femme quand même. J'ai l'impression qu'elle s'enferme dans quelque chose qui n'est pas très reluisant, c'est-à-dire elle vieillit, elle est seule, donc elle est malheureuse, donc elle est éplorée. Et à côté, elle choisit quand même 4 représentations de chats par Steinlein. Donc ça, c'est quand même... je ne sais pas si
Je vous laisse la conclusion de cette...
Et pour finir sur une note un peu plus reluisante, il y a un dessin de Gauguin qui est absolument extraordinaire. Il représente Madame la Mort en 1890, qui a un fusain mouillé, où on voit un crâne allongé et une main atrophiée, griffue. Et on a l'impression qu'il nous prédit l'arrivée des aliens. C'est un dessin absolument fabuleux.
Florian Guetté va une troisième fois conclure. Il ne faudra pas vous habituer à ça, Florian. Hein
non, mais moi, je trouvais que son romantisme, ce romantisme noir, très ado, en fait. Et ça m'a un peu... je trouve que ça manque de puissance. Je trouve que même le titre, La peur d'aimer, c'est un peu un pléonasme. Hein, la peur du manque, la peur de l'absence, la peur de la rupture, de la fin, de la résolution, la peur du plaisir. On voudrait en faire une angoisse universelle, mais finalement, c'est quand même très, très balisé par son vécu personnel traumatique. Elle dit qu'elle adore écrire, etc. Moi, les titres, je les ai trouvés tartes. Vraiment, ils ont un potentiel narratif, mais alors je les trouve sans relief. Je te haïssais, je te haïssais, je te haïssais. La peur d'aimer. I stood and I cried.
Je te voulais tellement, mais c'était dans ma tête, tout ça.
Voilà. J'ai créé du temps pour toi et moi.
On va s'arrêter là pour La peur d'aimer de Tracy Emin. Orsay vu par Tracy Emin, c'est le titre tout à fait exact, à découvrir jusqu'au 29 septembre. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint comme chaque soir pour donner dans un premier temps la question et la réponse du jeu d'hier soir, David.
En quelle année le premier film de la trilogie de Danny Arcand est-il sorti ? En 1986.
Et pour la question du jour, vous rappelez que vous ne posez que la question. Ce soir, on fait gagner des invitations pour le film « Viendra le feu » d'Olivier Lax ou Lacher, selon qu'on est basquisant ou pas. Il est sorti aujourd'hui au cinéma. La question ?
Dans quelle région d'Espagne se déroule le film « Viendra le feu » ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. Prise de son ce soir, Pierrick Monsigny. Réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute de littérature en compagnie de Sonia Deschamps, Lucille Como et Laurent Nunez. Nous parlerons de La clé USB, le roman de Jean-Philippe Toussaint chez Minuit, Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe chez Gallimard. Il y aura un coup de cœur de Sonia Deschamps pour Forêt furieuse de Sylvain Patieu au Rouergue. Et puis le journal de la dispute tenu par Lucille Como, consacré à la rentrée littéraire, à la façon dont le roman français parle de la France.